Merci d'écouter Beurre FM, midi 10h.
Spicuni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et Spicuni, ça veut dire spiritualité, culture et harmonie. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Pendant une heure ensemble, nous déconstruisons les préjugés avec Yacine Ilmi. Bonjour Yacine.
Bonjour à tous, bienvenue. Juste avant l'émission, on avait une petite boutade parce que cette émission est enregistrée.
Et elle est même doublement enregistrée, donc c'est pour ça.
Elle est doublement enregistrée pour ceux qui se reconnaîtront. Et du coup, elle est enregistrée le mardi et le jeudi et pour permettre à la communauté juive de participer avec nous parce que samedi, c'est Shabbat, ils ne peuvent pas...
Ils
peuvent pas venir.
Ils peuvent utiliser les micros, les appareils électriques, tout
et
ça.
Et l'imam Abdelali Mamoun a dit, ben, la solution pour pouvoir écouter, il a trouvé une solution pour que la communauté juive puisse écouter le Shabbat. Et ça nous a fait rire.
Voilà. Non, oui, pour écouter l'émission pendant le Shabbat.
Non, c'est d'allumer la radio le vendredi soir avant le Maghreb, et puis de la laisser allumer jusqu'au lendemain. Est-ce qu'à l'heure de l'émission... Mais Philippe a trouvé une solution beaucoup plus simple, c'est d'écouter les podcasts.
Voilà, et c'est
non.
plus économique.
Alors non, moi, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit qu'il fallait taper dans les mains et...
Mais on t'a dit, ça, c'est pas bon.
Mais je répète, parce que je prends l'exemple. Aujourd'hui, vous savez que grâce à la domotique, vous avez certains appareils qu'on arrive à faire marcher de façon de programmer ou avec des gestes dans les maisons modernes. Et je demandais si en tapant dans les mains, on pouvait démarrer la radio.
On a répondu que non, c'est pas possible.
En fait,
c'est l'intention.
Aujourd'hui, moi, j'ai des amis qui font partie de la communauté juive, qui sont pratiquants, qui respectent le Shabbat. Donc pendant le Shabbat, ils ne peuvent pas utiliser des objets électriques. Et donc... quand ils sont devant une porte, par exemple, ils ne peuvent pas ouvrir avec un digicode. Ils attendent. Ils ne peuvent pas demander à quelqu'un. C'est bien ça, Claude. Ils ne peuvent pas demander à quelqu'un d'ouvrir.
On ne peut pas dire « Allô Google, mets-moi Beurre FM ».
Mais voilà, par exemple, comme on le fait avec les appareils...
Ah non, on ne peut pas.
On ne peut pas faire ça.
C'est comme si tu appuyais sur un interrupteur.
Ouais. Alors, attendez, qu'est-ce qui est interdit? C'est de composer le numéro sur le digicode ou d'ouvrir la porte?
Non, c'est de composer, c'est-à-dire de faire fonctionner une machine, un appareil électrique. Mais ouvrir une porte qui n'a pas de digicode, c'est pas interdit.
Bien sûr. Donc c'est l'ascenseur, c'est pareil,
L'ascenseur qui n'arrête pas de monter et de descendre tout doucement est autorisé.
D'accord, voilà. Bien. Le débat...
À condition qu'il monte, qu'il descende tout seul.
Tout seul.
Il ne faut pas que ce soit moi qui appuie dans le bouton.
Ah non.
Bah, ceci dit, Imam Abdelali Mamoun, si l'ascenseur monte et descend tout seul, il vaut mieux éviter de le prendre.
Ouais, surtout que je sais pas à quel étage je vais aller. J'ai même pas le droit d'y donner l'attention dans ma tête, quoi.
Non,
c'est ça le problème.
Donc,
je peux pas lui dire troisième étage, cinquième étage, j'ai pas le droit.
On fait du sport dans ces cas-là. On va parler du rôle social des religions autour d'un projet unique dans son genre. Ça s'appelle l'Esplanade des religions à Bussy-Saint-Georges. Nous avons des invités pour en parler. Nous avons Toami Hadi qui est avec nous. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Avec beaucoup de plaisir, vous êtes vice-président de l'association qui gère la mosquée de Bussy, l'association Taouba. Et puis Claude Vendich est avec nous, bienvenue.
Merci, merci beaucoup de votre accueil.
Alors vous êtes le président de la communauté juive de Bussy-Saint-Georges et vous avez été le premier président de l'Esplanade des religions. L'imam Abdelali Mamoun qui est imam à résidence est avec nous. Bonjour imam Abdelali.
Bonjour à toutes et à tous, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, shalom et... Un grand.
Je connaissais les artistes à résidence, mais là, les imams à résidence.
Ah non, mais c'est...
J'ai pas compris l'imam à résidence, mais bon.
Moi, j'appelle ça l'imam radiophonique.
À résidence. Ouais, c'est-à-dire que je suis chez moi, là, tu veux dire.
Ou cathodique.
Cathodique, on va dire microphonique, on va dire peut-être.
Bon, c'est pas le sujet de l'émission, imam Abdelali. On va commencer par les mots que nous avons appris en préparant cette émission, Yacine.
Bah, écoutez, il y a deux mots qu'on a appris. Le premier, c'est un mot. Que peut-être que vous connaissez, c'est le syncrétisme. Est-ce que vous savez ce que c'est?
Le syncrétisme?
Oui, tout à fait, le syncrétisme.
Alors, il y a un saint qui s'appelle crétisme.
Non, c'est en un seul mot, syncrétisme.
Ah, pardon.
Philippe, il a même d'autres idées.
Je pense que cela signifie la volonté de membres de religions différentes d'essayer de fusionner les religions, d'en faire qu'une. À l'instar des trois religions monothéistes, de les appeler les religions abrahamiques. Il y a des tendances qui vont dans l'extrême de la tolérance et dans la promotion du vivre ensemble qu'il faut pour cela absolument réunir toutes les religions au sein d'un même patriarche, un même prophète, autour d'un même Dieu, d'un même livre, etc. Ça, bien sûr, pour moi, celui qui a cette démarche-là, n'est pas dans le défi du vivre ensemble. il est dans la facilité, parce que c'est facile de vivre avec des gens qui pensent comme vous. Mais la difficulté et le défi, c'est de justement vivre avec des gens qui ne pensent pas comme vous, qui sont différents de vous, qui ne sont pas de la même race, la race ou de la même culture que vous, et d'accepter de s'enrichir mutuellement. Comme disait Saint-Exupéry, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis.
Bien, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose à la définition de l'imam ?
Non, moi je suis tout à fait d'accord.
Claude ?
Vous
n'auriez pas dit mieux que l'imam ?
Je pourrais pas dire mieux, non.
Si, peut certainement dire mieux.
Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas arrivé encore à l'ère messianique. Peut-être qu'à ce moment-là, on sera tous d'accord.
C'est sûr, quand le Messie arrivera à la fin des temps, qu'il tranchera entre toutes les religions pour dire la religion de Dieu, c'est celle-là, et qu'il faut tous se mettre derrière moi, ben oui, moi je serai le premier à me mettre derrière le Messie.
Voilà, on n'en est pas là.
Mais par contre, nous, quand on dit le Messie, on parle de Jésus, alors que vous, non, on parle d'un Messie qui est un autre personnage. Mais en tout cas, il viendra le Messie, on est d'accord, chez les chrétiens, chez les juifs, chez les musulmans, le Messie, Isa ibn Maryam, qui viendra à la fin des temps, pour nous, il viendra et il sera celui qui va trancher entre les religions, et il va demander à tous de se réunir autour de la même table.
Donc, toi, Mise, sur le syncrétisme, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ?
Bah, la preuve, c'est que je ne suis pas d'accord, parce que Dieu nous a créés en fait différemment. Il a envoyé plusieurs prophètes, donc avec une mission en fait spécifique pour chaque prophète, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était envoyé à tout le monde. Donc, mais à l'époque, à Médine, donc les juifs, les chrétiens, il y avait le vivre ensemble avant qu'on soit nous ici, en fait, il y a 14 siècles. Donc à Médine, certes, on ne parle que des juifs, la plupart ils connaissent que les juifs ils ont vécu à Médine, mais il y avait des chercheurs qui ont trouvé des familles chrétiennes qui ont vécu à l'époque de prophète Larsen.
Alors Yacine, sur la définition du syncrétisme.
Comme dirait Philippe, à ne pas confondre avec le saint crétin. Ouais. Ça c'est la petite boutade.
Il ne faut pas le répéter ça.
Un crétin c'est rarement saint.
Donc le syncrétisme c'est une religion dans la doctrine où les pratiques sont un mélange d'éléments.
Mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont saints.
Par contre, des chrétiens, il y en a. Différentes croyances. Donc c'est un mélange d'éléments qui sont pris dans différentes croyances. Voilà, c'est ce qu'on appelle le syncrétisme, c'est prendre un peu de chaque religion et en faire une religion.
Voilà. Deuxième mot que nous avons appris en préparant cette émission, Yacine.
Bon. C'est un mot qui est d'origine chrétienne et aujourd'hui, même si nos frères et nos sœurs chrétiens ne sont pas avec nous, même et on sait qu'ils sont avec nous de cœur, c'est le mot œcuménisme.
J'en étais sûr qu'il aimait ça. je l'avais dans ma tête, il va dire œcuménisme.
Je ne connais pas.
Alors, un mot qu'on va partager avec vous.
L'œcuménisme, c'est cette démarche intra-chrétienne, donc interne à la religion chrétienne, qui consiste à réussir à consolider, à réconcilier les différentes églises du christianisme, en l'occurrence le protestantisme, le catholicisme, l'orthodoxie, les anglicans, etc., les évangélistes, etc., etc. Cette démarche a été mise en place par Jean-Paul II, il me semble, au Vatican II, il me semble. C'est là où est-ce qu'au Vatican II que la démarche de l'œcuménisme a été mise en place. Peut-être qu'il y a eu un commencement au Vatican
I. Le mot existait avant. Hein.
Oui, il existait. Ouais.
En tout cas, l'idée, c'est de réussir à réconcilier, véritablement dans une démarche de réconciliation de gens qui sont de la même religion chrétienne, mais qui ont des désaccords sur des principes fondamentaux qui sont liés au dogme, au credo.
Voilà. Effectivement, ça va vraiment dans ce sens, c'est de promouvoir des actions communes entre les différents courants du christianisme. Et en fait, c'est un mot aussi, pourquoi il m'a intéressé, parce que je me dis, même chez les musulmans, il y a ces différents courants, il y a les chiites, chez les chiites, il y a plusieurs... Voilà, et on ne voit pas forcément... Je ne sais pas si ce mot... existe
on pourrait l'adapter en islam.
Ouais. Non, il y a depuis très longtemps des démarches de dialogue entre sunnites et chiites.
Mais c'est au-delà de la démarche, c'est en faire un symbole et un concept.
Non, je dis bien les actions, des rencontres, des congrès, des colloques, des rassemblements politiques et religieux dans le monde musulman pour promouvoir le dialogue entre le chiisme et le sunnisme, qui sont les deux grands courants de l'islam, ont porté leurs fruits, puisque pendant des décennies, voire même des siècles, il n'y a pas eu de conflit entre sunnites et chiites jusqu'à dernièrement. Et c'est peut-être parce qu'on a baissé les bras, qu'on a abandonné ce projet ou cette culture du dialogue entre sunnites et chiites, qu'aujourd'hui les tensions se sont réveillées et bien sûr certainement motivées par un bras extérieur.
C'est pas arrivé à un point où de créer un conseil œcuménique des églises par exemple.
Des mosquées.
Ou conseil.
Oui, moi je suis pour. Voilà. Je suis pour éviter les guerres. Parce qu'aujourd'hui, s'il y avait ce conseil-là, eh bien, peut-être que Bachar Assad arrêterait de s'acharner sur les sunnites de Syrie. En Irak, pareil. Au Yémen, il n'y aurait peut-être pas de conflit, parce que le conflit réel qu'il y a au Yémen, c'est entre Houthis, chiites, zaïdites et la population sunnite. Ils ont gouvernement sunnite, soutenu par le régime saoudien, donc sunnite, et ainsi de suite. Au Bahreïn, pareil, il y a énormément de tensions entre 70% de la population arabe bahreïni qui est chiite, parce qu'elle est très proche de l'État iranien. Il y a même des populations sunnites en Iran qui rencontrent énormément de difficultés, qui subissent énormément de tensions et de pression et de discrimination au sein même de l'Iran. Donc il faut, pour moi, à mon avis, et c'est impératif, de promouvoir cet écuménisme musulman des mosquées pour au moins réconcilier, promouvoir la paix entre les différents courants religieux musulmans.
Alors Claude Vindich, est-ce qu'il existe la même chose chez les juifs ?
Alors,
Est-ce qu'on pourrait adapter finalement le mot au judaïsme ?
Oui, on peut l'adapter. Il y a des relations, il y a des réunions, il y a des essais de rapprochement entre les communautés très ultra-orthodoxes, orthodoxes, consistoriales et libérales. Et il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais tout le monde est sur ce chemin-là. Mais moi, je généraliserais le mot œcuménisme à maintenant les relations entre toutes les religions. Parce que vous avez parlé de Jean-Paul II, et c'est vrai que c'est extraordinaire l'encyclique en 1962, je crois, enfin bon, déjà plus de 50 ans, où tout a changé, où le jour où il a dit le peuple juif n'est plus un peuple déicide, les relations judéo-chrétiennes ont complètement...
Déicide.
On était un peuple dit déicide, oui.
C'est-à-dire qui tue des dieux, en l'occurrence Jésus.
Jésus.
Voilà.
Or, aujourd'hui, en tout cas dans l'éducation chrétienne, on ne parle plus de ça. Et aujourd'hui, les prêtres sont pour le dialogue judéo-chrétien, le dialogue...
Je signale quand même que Jésus, c'est pas les juifs qui l'ont tué, c'est Romain.
Oui.
C'est pour Pilate.
Pendant des siècles et des siècles...
En fait, ils l'ont même pas tué.
Pendant des siècles et des siècles, on a accusé les juifs de
ils ont parlé de dénonciation, de...
Voilà, mais... L'antisémitisme.
Je signale quand même que Jésus lui-même, il était juif, hein, c'est un israélite, hein, il est de la race des Ben Israël.
Tout à fait d'accord.
Ouais, donc c'est un mot qu'on peut appliquer finalement à l'ensemble des religions, même les religions qui ne sont pas monothéistes. On est d'accord ?
Oui. Ben oui, on peut discuter
intra.
Ah non, c'est vraiment réservé aux religions du livre.
C'est du dialogue interreligieux là.
Ah oui, mais le communisme de base tel que
c'est intra normalement.
À l'origine, c'est-à-dire ce concept, c'est un concept chrétien, il est intra. Voilà, mais après...
Maintenant,
Claude, lui, appelle à l'étendre.
Ah oui, moi j'appelle à l'étendre.
Non, parce que ma question, c'est de savoir si on fait une émission, par exemple, interreligieuse, et qu'on invite des bouddhistes, par exemple, est-ce qu'on peut dire que c'est une émission...
Non, c'est interconvictionnel ou interreligieux.
Voilà,
c'est
d'accord.
Il faut savoir que le précurseur de cette démarche écuménique, c'est l'empereur romain de l'époque du prophète, qui s'appelait Héraclius, Héracle en arabe, Hérazim Rum, qui, à Constantinople, avait organisé un concile écuménique pour essayer, du moins, il n'a pas réussi, à réconcilier les Ariens, les monolithiques, les monophysites, les nestorianistes, les donatistes, etc., etc. C'est Héraclius, donc je répète, Héraclius, Héracle Azim Rum, qui était dans cette démarche de tolérance et qui a, justement, quand il a reçu le messager du prophète Dihyat el-Kalbi, qui était l'envoyé du prophète pour l'inviter à se convertir à l'islam. Il était venu avec la lettre du prophète dans laquelle il dit « Min Muhammad Rasulillah ila Azim Rum » de Muhammad, envoyé de Dieu au grand et au grandissime romain. Assalamu ala man ittaba' al-huda, que la paix soit sur celui qui suit le bon chemin, etc. etc. Et donc c'est une lettre qui avait été envoyée à Héraclius.
Bien, Spicuni, c'est jusqu'à 11h sur BFM, mais ce matin, je vous propose qu'on parle ensemble de cette expérience, de ce concept unique au monde qui s'appelle l'esplanade des religions.
Spicuni revient dans un instant. Beurre FM, 10h-11h, Spicuni avec Philippe Robichon.
Voilà, et aujourd'hui nos invités viennent de Bussy-Saint-Georges, puisqu'on parle, Yacine, de cette expérience unique, ce concept unique au monde. Pour l'instant, on verra s'ils ont fait des émules, qui s'appelle l'Esplanade des Religions. Alors nous avons sur ce plateau Toami Hadi, qui est vice-président de l'association Taouba, qui gère la mosquée de Bussy, et puis Claude Vendige, qui est président de la communauté juive de Bussy-Saint-Georges. Et vous avez été le premier président de l'Esplanade des Religions. Il en manque plein, hein, puisque vous êtes, combien de religions êtes-vous représentés sur cette fameuse Esplanade des religions? Alors, de Bussy-Saint-Georges.
Aujourd'hui, on a les trois religions principales du livre, les juifs, les chrétiens, les musulmans. Nous avons deux temples bouddhistes, un taïwanais et un temple laotien. Et normalement, d'ici deux ans, nous aurons un grand temple hindou. Mmh.
Et la synagogue, elle en est où? Parce que...
Alors la synagogue, c'est le problème.
J'ai entendu dire qu'elle manquait de sous, moi, cette synagogue.
Oui, la synagogue manque de sous. Et s'il y a des auditeurs qui veulent nous aider, ils sont les bienvenus.
Il y a une auditrice algérienne qui a beaucoup donné d'argent.
On a eu une auditrice extraordinaire.
Ouais. Qui se compte par milliers d'euros.
Qui est venue et qui a prié sur la dalle de la synagogue. Elle a prié en arabe. Elle m'a téléphoné en me disant j'ai prié pour que vous réalisiez votre synagogue. J'espère que vous ne m'en voulez pas. J'ai dit non, je ne vous en veux pas. Je regrette qu'il n'y ait pas eu un journaliste à ce moment-là. Mais je ne vous en veux pas, bien évidemment. C'est merveilleux. Pour elle, elle disait c'est pas possible que vous n'arriviez pas à construire cette synagogue. Donc, voilà.
Vous avez besoin de combien de sous?
Nous avons besoin de plusieurs centaines de milliers d'euros. Notre projet, il est modeste. Mais quand on sait les millions d'euros qu'ont dépensé les bouddhistes pour faire ce temple Fowanshan, qui est une merveille, nos amis musulmans, leur mosquée, qui est fantastique, ça se compte aussi en millions d'euros. Notre projet, qui est en dessous d'un million, est un petit projet modeste, mais c'est important que nous construisions notre synagogue.
Alors, qui veut m'expliquer quel est le concept de départ de l'Esplanade des Religions?
Le concept, c'était l'Amérique qui a créé ce concept, en fait.
Un ancien maire.
Un ancien maire, ouais. Qui a créé, en fait,
oui,
ce concept.
Oui, c'est Hugues Rondeau, qui était maire de Bussy-Saint-Georges.
Maire centriste. Hein.
Au cours de discussions avec les représentants de la communauté musulmane et de la communauté juive, a dit « Mais si on mettait tout le monde dans un même lieu, puisque c'est une ville nouvelle avec une création urbanistique. » Et donc, il y a eu cette idée de créer au centre de la ville une grande avenue où il y aurait tous les lieux de culte des gens qui vivent dans la ville.
Avec un très beau parc à côté.
Avec un très beau parc.
Mais Bussy, déjà, une très belle ville, il faut le savoir. C'est une ville qui est très bien, d'un point de vue architectural, très, très vaste. C'est-à-dire que beaucoup de... C'est pas une ville confinée. Ils ont pris vraiment le temps
C'est une belle ville nouvelle.
Et c'est une ville nouvelle, effectivement. C'est ce que je voulais dire, c'est que c'est une ville récente. Bussy-Saint-Georges, c'est... Voilà, quand vous allez là-bas, vous voyez bien les grandes avenues, les grands trottoirs. Tout est en grand, quoi, là-bas.
C'est le monde de Disney, mais en vrai.
Oui, c'est à côté en plus.
Alors oui, il y a un peu un style de ville américaine, un peu très propre, très propre. La ville des parcs et jardins, ça c'était l'idée du maire de l'époque.
Bon, l'idée c'était donc de réunir dans la même rue tous les lieux de culte de toutes les religions.
C'est ça, ça c'était l'idée avec une obligation, c'est-à-dire que ce soit un laboratoire du vivre ensemble, que cette ville devienne un véritable laboratoire. Qu'on décide que les gens qui s'installeraient sur cette esplanade ne feraient pas de prosélytisme. Ça a été l'idée de base.
Prosélytisme, c'est-à-dire
ne cherchez pas à convertir,
à influencer les autres,
à convaincre les autres de la véracité de sa religion.
Ouais. Quelqu'un qui rentre à la synagogue qui veut devenir juif, moi je dis bon, il a des problèmes.
Il a du mal.
Il aura du mal, il a un long chemin à faire, mais c'est son droit. Quelqu'un qui veut rentrer à la mosquée, qui veut devenir musulman, c'est son droit, mais on ne va pas aller le chercher dans la rue. Donc,
on peut compter toutes les semaines le nombre de fidèles de chaque lieu de culte, par contre, on peut observer.
On peut observer, bien sûr.
On participe, l'avantage c'est qu'on participe à toutes les fêtes ensemble, mais l'esplanade est ouverte à tout le monde.
D'accord, c'est-à-dire, par exemple, là on a eu l'Aïd, El Fitr. Donc, comment ça se passe à Bussy-Saint-Georges?
On a fait un iftar. Hein.
On a fait, non, pendant le ramadan, on fait un iftar ensemble. En fait.
D'accord. Maintenant, toutes les villes un peu...
Oui, mais nous, on était vraiment... Mais
c'est un emplacement réservé au dialogue? C'est-à-dire, je n'ai pas compris. Là.
Non.
Alors, l'esplanade est ouverte à tout le monde. C'est-à-dire, il y a les lieux de culte, mais alors, l'important aussi, c'est que chaque lieu est un lieu de culte et de culture. Il y a un espace culturel pour le religieux et il y a un espace pour le culturel qui est ouvert au public. Ça, c'est très important parce que ça permet, quand on va au temple Fo Guanshan chez les bouddhistes, on connaît rien. On va pas prier au temple Fo Guanshan. On va pour connaître leur culture.
Oui, bien sûr.
Quand quelqu'un rentre dans la synagogue, quand des élèves des écoles rentrent dans la synagogue et ensuite à la mosquée et à l'église, ils viennent pour découvrir l'histoire des religions.
C'est-à-dire qu'en gros, vous avez la mosquée, le temple, la synagogue, les pagodes, tout ça dans la même rue.
Dans la même rue. Dans la même.
Vous parlez des fidèles, bien sûr.
Les édifices.
Ah oui, les édifices.
Les fidèles, ils habitent où ils veulent.
Je comprends qu'il y a un endroit où tout le monde cohabite, effectivement. Voilà. Les établissements musulmans. Les lieux de culte.
Ils partagent aussi les parkings. C'est-à-dire que vous avez le parking du temple bouddhiste qui est souvent utilisé le vendredi par les musulmans et le parking de la communauté juive.
L'avantage, c'est que le samedi, on les partage tous
le dimanche pour les chrétiens. Voilà, chacun. Chaque jour, chaque religion.
Les parkings, ils sont là tout le monde, donc c'est à nous de faire attention. Par exemple, pour te parler de l'Eid, donc nous, on organise en fait, on a une équipe de sécurité pour organiser la circulation. Donc, bien sûr, tu as la police municipale, la police nationale, mais on organise la circulation pour ne pas gêner les voisins.
Bah, vous m'avez dit, on fait la même fête, on fait toutes les fêtes ensemble. Par exemple, on a eu le Pentecôte, par exemple. Comment ça se passe?
Pentecôte, c'était intéressant parce qu'il y avait les chrétiens qui faisaient le dimanche et le lundi de Pentecôte. Les juifs, c'était dimanche et lundi également, exactement les deux mêmes jours, 50 jours après Pâques. On tombe là vraiment dans un parallélisme.
C'est synchronisé, là, les calendriers, pour le coup.
Et puis, les Laotiens avaient une fête de Bouddha, l'anniversaire.
C'était quoi? C'était jeudi dernier.
C'était dimanche.
Dimanche.
Et les musulmans avaient l'Aïd quelques jours avant.
Quelques jours avant. La même chose quand on fait les fêtes des Lumières au mois de décembre. On a la fête de Hanouka chez la communauté juive. Quelques jours après, c'est la fête de Noël. Enfin, et le 1er janvier, c'est la fête des Lumières au temple Fo Guanshan, où toutes les religions sont présentes et où, ça c'est une fois par an, on lit tous ensemble sur le podium. Alors bon, c'est vrai qu'il y a Bouddha, mais on regarde le côté architectural, comme vous disiez tout à l'heure. On est tous les représentants des religions, on lit une prière universelle pour la paix, où aucun mot ne choque aucune communauté.
Vous assurez d'avoir un texte commun.
Oui, tout à fait.
D'ailleurs, j'avais été invité durant la Pâque chrétienne par les membres de l'Esplanade des Religions à l'église pour faire un message. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire qu'il y avait les membres de la communauté chrétienne, il y avait les membres les responsables de l'Esplanade des Religions, il y avait Claude, il y avait Toami, et un message très fort. En plus, c'était une période juste avant, il y a eu un attentat dans l'église au Sri Lanka. Donc il y a eu ce soutien. Oui. Les gens sont très touchés. C'est-à-dire, c'est vraiment de voir des juifs, des musulmans être solidaires avec
la communauté. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'au sein de la composante musulmane, là je fais de l'autocritique au sein de ma composante musulmane, et c'est peut-être en même temps un message, c'est que nous, pratiquement à toutes nos fêtes musulmanes, on reçoit un message de la part de la communauté chrétienne en France. Et ça, dans toutes les mosquées où j'étais, il y avait ce message qui était envoyé par la communauté chrétienne aux musulmans, qui leur souhaitait des meilleurs vœux pour le fête, etc. Et je trouve que réciproquement, c'est-à-dire que quand il y a des fêtes chrétiennes, les musulmans se manifestent très peu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des fatwas qui leur disent « Non, c'est haram de souhaiter meilleurs vœux, c'est haram, on n'a pas le droit de souhaiter... » Voilà, on a un...
Alors, toi, vous manifestez pour les fêtes des autres.
En fait, j'envoie des messages que ce soit à Claude, à Dominique. En fait, Dominique,
c'est très bien. C'est très bien.
Parce que, en fait, c'est vrai, le problème, c'est quand ce sont nos voisins. Et tu sais bien que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a vraiment demandé que le musulman doit prendre soin de ses voisins. Il n'a pas demandé, en fait, qu'il soit chrétien ou juif, peu importe. Ce n'est pas à moi de juger, en fait.
Non, mais parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui pensent que souhaiter des vœux de Noël ou de Nouvel An ou de Pâques à des chrétiens, ça veut dire qu'on est d'accord avec eux à travers leurs convictions qui sont associées à ces fêtes-là. C'est complètement absurde. Il s'agit de promouvoir le vivre ensemble, le faire société, d'être dans des rapports.
Mais surtout pas avec ces fêtes-là. Donc, en fait, le vivre ensemble, je te dis, je te donne la dalil. En fait, le prophète, il te demande de vivre. C'est ton voisin, il a besoin de quoi que que ce soit, tu dois l'aider, donc il ne te demande pas de chercher sa religion. Donc, encore une fois, donc à un moment donné, ceux qui ont donné ces fatwas qui...
Ah, mais le problème, c'est qu'elle circule encore. Hein. À chaque année, à chaque Noël, à chaque fête de la Toussaint ou de Pâques, tu as des fatwas qui tombent sur Internet ou les musulmans... Ah non,
sur cette question, c'est vrai, effectivement, les membres de notamment la communauté chrétienne, mais aussi juifs, durant les fêtes musulmanes, envoient des messages, souvent la communauté catholique. Et c'est souvent dans ce message-là, il est rédigé par... c'est toute une organisation. Il y a un message soit au recto, le message du pape, au verso, le message du responsable du diocèse, etc. Donc il y a toute une organisation. Donc on espère, Inch'Allah, comme on dit, prochainement qu'il y ait un conseil national des imams qui puisse lancer ces dynamiques. Parce que finalement, aujourd'hui, il n'y a pas ces dynamiques parce qu'il n'y a pas d'organisation claire qui envoie ces... Cette dynamique.
Cette dynamique. Alors moi, j'aimerais savoir comment on transforme un concept de base, qui était une idée qu'un maire a eue, en une réalité de terrain. Parce que c'était bien joli, votre histoire sur le papier. Maintenant, aujourd'hui, au quotidien, qu'est-ce que ça change, que vous soyez tous ensemble les uns à côté des autres? Est-ce que c'est vraiment la même chose? Est-ce que c'est vraiment différent, ou est-ce que c'est la même chose pour ceux qui sont éclatés dans des lieux différents?
Bon, c'est la même chose. Je te donne des exemples. Par exemple, la synagogue aujourd'hui n'est pas construite. La dernière fois qu'on a eu une visite en fait, dans l'ICI de Shell, on parle toujours de 77 en fait. Puis c'est Saint-Georges pour le préciser, c'est 77-600. Et donc on avait, je crois, plus de 100 lycéens en fait, qui devaient visiter l'esplanade de religion. Donc on a ça. Malheureusement, on a que les lycéens maintenant catholiques qui viennent visiter l'esplanade. Pour l'instant, on n'a pas les lycées, c'est un message
public.
Et donc, Claude, il devait recevoir en fait, les 100 gamins. Donc, il ne peut pas les recevoir. En fait, dans la synagogue, il est trop petit. Il peut recevoir un maximum 50 personnes. À ton avis, il les a reçus où?
À la mosquée. À la mosquée. Et c'est quand même extraordinaire parce que ces gamins qui sont d'une école privée chrétienne se déchaussent avec respect pour rentrer dans la mosquée. Moi, j'arrive avec une kippa et je leur dis shalom. Ils ne comprenaient pas bien ce qui se passait. Mais c'est fabuleux. Et l'année dernière, on avait eu la même expérience le premier jour du Ramadan.
Oui.
Et c'était extraordinaire. Et ils rentrent chez eux en disant on a vu des juifs qui embrassaient des musulmans, il y avait une bouddhiste. Après, on a vu les bouddhistes. Ils reviennent avec une vision.
Qui était très, très bien installée, les bouddhistes, dans leur joli temple.
Oui. Alors, moi, je dis oui, la vie a changé à Bussy grâce à cette expérience. C'était un laboratoire au départ. Et aujourd'hui, le vivre ensemble, c'est naturel. C'est devenu quelque chose de naturel. Pendant le Ramadan, vous croisez un buxan-georgien, une buxan-georgienne musulmane à la caisse de Carrefour, elle est chargée, vous dites « Allez-y, passez, moi je suis pas pressé, vous avez la fête ce soir ». Elle se retourne, elle vous fait un grand sourire, et ben ça, c'est Bussy-Saint-Georges, et ça, c'est le vivre ensemble. Et ça n'existait pas il y a 10 ans.
Bravo, bravo.
Mais ça n'existait pas il y a 10 ans, parce qu'on avait peur les uns des autres. On se connaissait pas. On se connaît, on s'invite aux fêtes, on essaye de s'expliquer nos différentes fêtes. Le rabbin avait reçu tout le monde pour Pâques, pour expliquer la fête de Pâques. On fait des conférences avec le curé. Et donc, à force de se connaître, on a moins peur de l'autre.
Vous mesurez clairement le avant et l'après, en fait.
Tout à fait.
Tommy.
Non, tout à fait. Vraiment,
sincèrement. Non, moi, je trouve que c'est une bonne chose, tout simplement parce que comme c'est une ville nouvelle, il est important de construire les fondations de la ville. On construit des murs, certes, mais il faut construire pas le contenant, le contenu aussi. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer qu'il y ait un vivre ensemble, une paix commune, une relation conviviale, dans la différence et dans justement la richesse de pouvoir s'échanger nos cultures, nos connaissances, nos expériences. Et c'est grâce à cela qu'une ville s'émancipe et devient très forte.
Il y a une chose qui m'a vraiment intéressé, qui m'a impressionné à travers ce projet de l'esplanade des religions, c'est au-delà même du vivre ensemble, on sent qu'ils font ensemble. J'ai participé à une des réunions de leur conseil d'administration et en fait, ils mettent en place des projets. C'est-à-dire qu'entre eux, ils se mettent d'accord pour faire un tournoi de foot entre les gamins. C'est-à-dire que c'est du concret. C'est-à-dire qu'on est où ils vont faire des plats, ils vont faire des plats ensemble. Ils ont
le tournoi, c'est quoi le principe? C'est les juifs contre les chrétiens?
Ah
contre
non,
les
musulmans, non, non, c'est blague.
On mélange.
On fait l'équipe de France.
On fait l'équipe de foot.
Non, ça sera le 22 septembre. On peut déjà l'annoncer. sur votre radio. Le 22 septembre, il y aura des tournois à Bussy.
Je t'ai donné de la balle. Je t'ai dit de donner la balle à Moshé, pas à Moussa.
Voilà.
Mais j'ai entendu Moussa, Moshé, Moshé, Moussa, c'est pareil. Voilà.
Et ouais, on finira cette journée avec la dégustation de gâteaux. De gâteaux du Maghreb, de gâteaux d'Europe centrale, de toutes les cultures, des gâteaux chinois, ça va être bien. Génial.
On parle de cette expérience jusqu'à 11h, ce Beurre FM.
Speak Uni revient dans un instant. Beurre FM, 10h-11h, Speak Uni avec Philippe Robichon.
Et Yacine Ilmi qui prépare cette émission. Yacine, est-ce que vous avez, justement, comme chaque semaine, une phrase à nous donner ?
En fait, c'est pas une phrase, mais c'est un concept qui m'a beaucoup intéressé. C'est lié, en réalité, mais c'est une prière qui est notamment faite au sein de la communauté juive, mais c'est aussi chez les autres communautés religieuses. C'est la prière pour la République. Est-ce que ça vous parle ? En fait, c'est quasiment une obligation qui est faite dans les synagogues où il s'impose une prière spécifique pour la République et pour la France.
Mmh. Oui, tous les samedis, on lit cette prière, effectivement. On est en France et on doit respecter le pays qui nous accueille. Et c'est une prière pour la République.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est le fait de prier pour le bonheur, la prospérité et la paix du pays dans lequel nous vivons. Et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est une chose qui date de c'est un concept qui date depuis l'ère napoléonienne.
C'est le Grand Sanhédrin.
Et dans cette prière...
Le Grand Sanhédrin de 1806.
Oh, c'est un mot qu'il faut qu'on garde, ça, Yacine. Le Grand Sanhédrin, celui-là,
c'est un rassemblement qui a été organisé par Napoléon Ier. En 1806, donc je le disais, et qui a permis l'intégration de l'Alsace-Moselle à la France, moyennant le gel de toutes les dettes que la communauté juive avait à l'égard de commerçants alsaciens. Et les Alsaciens avaient demandé donc à Napoléon de demander à la communauté juive de geler les dettes. En contrepartie, l'Alsace intégrait le territoire français. Mais en contrepartie, la France a intégré la communauté juive donc en tant que religion d'État et était donc subventionnée, entretenue par l'État. C'est ce qu'on appelle le concordat.
Vous pourrez chercher dans
qui est encore appliqué jusqu'à aujourd'hui en Alsace.
C'est toujours le cas en fait aujourd'hui.
C'est là que le consistoire israélite a été fondé tout par Napoléon.
Et vous pouvez chercher, vous tapez prière pour la République et vous trouverez des phrases qui sont, moi, à mon sens, qui sont très, très belles. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde, et conserve son rang glorieux au sein des nations. Amen. Ils disent amen. Donc en fait, on vit dans un pays dans lequel on a grandi, c'est un pays...
Ben ça, je vais te dire un truc, c'est impossible dans les mosquées. L'imam, il dit ça, c'est sa dernière prêche qu'il va tenir.
Tu penses ?
C'est dommage. C'est dommage. Je suis le premier à considérer que c'est dommage. Mais aujourd'hui, c'est encore trop tabou.
En fait, c'est un pays où
il y a une réalité.
T'as été éduqué.
Il y a d'abord le fait, parce qu'on dit que c'est des koufars. On prie pour les koufars et on va dire non, c'est pas autorisé de prier pour les koufars. Et il y a des gens qui vont dire on n'est pas dans un pays d'accueil, on est dans notre pays, c'est notre dû. Et qu'on n'a pas à dire merci à des gens qui nous doivent.
Alors, Touami Hadi voudrait intervenir.
Touami,
allez-y, parce que sinon, l'imam,
Non, Abdel Ali, donc là, je ne partage pas avec. En tout cas, notre imam, tu connais Abdel Ali. Donc, le
dua. Abdel Hamid.
Le dua, Allahumma ammin biladana. Ou al balad ou l'anin aïchoufi. En fait, on prie pour le pays, là où on vit, en fait. Mais là, c'est vraiment.
Mais c'est rarissime. Je dis, cher Abdel Hamid, Ma'zouz, que tu es un ami à moi, que j'aime beaucoup, que j'embrasse au passage. Est quelqu'un de très ouvert. Il est né en France. Il a compris qu'en tant que fils de la France, il fallait changer ce discours religieux qui allait dans le sens d'être non pas simplement un invité de la République, mais un enfant de la République. Et cet enfant de la République qui prie pour ses parents et pour sa patrie, eh bien, il doit le faire avec beaucoup de sincérité, et sans gêne. Aujourd'hui, il y a énormément de gêne encore au sein de la composante musulmane pour faire ce genre d'invocation.
Le problème, c'est que je pense que les gens, ils vivent pas, en fait, comme tu dis, en fait, réellement en France, mais en fait, nous en France.
Il dit on a Allahumma ammin biladana. Ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, oh mon Dieu, sécurise nos pays. Il a pas dit notre pays.
Non,
biladana,
notre
c'est pluriel. Donc biladana. Les musulmans, souvent, ils comprennent que c'est le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, non pas la France. Ça, c'est premièrement. Est-ce qu'il l'a dit en français ? Il faut le dire. Exactement comme tu l'as dit, Yacine. C'est ça ce qu'on veut. Comment t'as dit, la répète ?
Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde et conserve son rang glorieux au sein des nations.
Eh bien, oui, je vais dire. Là, dis à Abdelaziz de le dire en français. Oh, merde, je ne peux pas.
Je vais passer le message.
Eh ben on verra bien. On relève le défi.
Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a un malaise quand même.
Il y a un gros malaise,
et
un grand
gêne. Il y a un travail à faire parce qu'en réalité, dans le pays où.
Moi, je mets le doigt sur l'abcès. C'est pour ça que je ne suis pas en train de dire que. Je mets le doigt sur l'abcès pour que les choses évoluent. Parce que si on ne reconnaît pas un auteur, on ne peut pas évoluer.
Alors à Bussy-Saint-Georges, les choses ont évolué puisqu'aujourd'hui, les juifs, les musulmans, les chrétiens, les protestants, les bouddhistes laotiens et les bouddhistes taïwanais ont maintenant pignon sur rue, ça s'appelle l'esplanade des mosquées. Ils ont créé
des religions.
Et vous avez est-ce que c'est justement, j'imagine que le nom a été calqué sur l'esplanade des mosquées ou pas, ou ça n'a rien à voir?
Non, ça n'a rien à voir. Et l'esplanade, on insiste beaucoup pour dire aussi. Esplanade des religions et des cultures.
Et c'est le nom de l'association que vous avez créée, en fait, le lieu de culte est indissociable du lieu où est dispensée la culture.
Tout à fait.
Moi, je suis pour faire évoluer cette expression et parler de dialogue interconvictionnel, de manière à intégrer aussi les non-croyants. Parce que les non-croyants, c'est une conviction de ne pas croire. Quand vous dites confessionnel...
L'association, elle est faite pour les gens qui existent sur l'esplanade, en fait. Donc le problème, c'est qu'il est confessionnel. On n'en a rien contre
mais
eux.
Mais je ne parlais pas de Bussy, je parlais
en
général.
Parlons de Bussy, en fait. Si, parce que là, ils ne peuvent pas avoir un lieu de culte. Donc là, c'est l'association, elle est faite ainsi faite.
Voilà, mais en mettant association des religions et des cultures, on ouvre les portes.
Vous ouvrez les portes même aux gens qui n'ont pas de religion.
Voilà. Mais qui ont une culture. Je vais vous raconter une anecdote très très drôle. Il y a quelques années, on a été invité chez les Laotiens et on s'est présenté. Donc il y avait le représentant de la communauté musulmane, de la communauté juive, chrétienne, etc., et une représentante de la municipalité. qui était gêné, qui a dit, écoutez, moi, je suis représentante de la municipalité et je suis athée. Et là, moi, mais du tac au tac, j'ai dit oui, grâce à Dieu. Et bon, on a tous rigolé, sauf elle. Mais voilà, on ouvre les
portes. Elle a mal pris.
Non, elle a pas compris.
Elle a pas compris.
D'ailleurs, l'association de l'esplanade des religions est présidée.
Et de la culture.
Est présidée par une nonne, c'est bien ça ou pas?
Est présidée par une vénérable, oui. Par une vénérable du temple.
Par une femme qui est moine bouddhiste.
Qui est moine bouddhiste.
Voilà. On n'appelle pas ça des bonzes, justement.
Chez les bouddhistes, peut-être.
L'expression bonze, tu peux nous voir, Yacine, c'est quelle religion le bonze?
Eux, c'est les vénérables.
Et effectivement, c'est un prêtre de la religion bouddhique.
Ah, donc voilà, tu vois, j'avais raison.
On ne les appelle pas les bons.
Bon, est-ce que vous avez des moyens d'évaluer vos actions, en fait? Est-ce que, par exemple, la municipalité vous demande régulièrement de faire un point d'étape et de savoir en quoi cette initiative de l'esplanade des religions a changé le vivre ensemble? Au départ, ça devait aussi lutter contre la radicalisation. Donc, est-ce qu'on arrive à mesurer l'impact?
Pour la radicalisation, tu es mieux placé, toi, mais...
Franchement, la question ne s'est pas posée parce que heureusement, on a.
Vous existez, mais est-ce qu'on sait finalement l'impact que ça a? Est-ce qu'il y a des outils qui sont mis en place pour les mesurer?
Pas du tout pour l'instant, non, en fait, on n'a pas.
La mairie est partie prenante.
Dans l'association de l'esplanade.
Dans l'association, on a donné une place à la mairie pour assister à nos conseils d'administration pour que la municipalité soit toujours au courant de nos actions. Je pense que, même politiquement, on représente une force importante pour la municipalité, parce que si on prend tous les croyants de la ville, on est le premier parti de la ville.
Hein. Ma question, c'est de savoir, est-ce que finalement c'est du clientélisme intelligent, au maximum, ou c'est quelque chose d'utile pour la municipalité?
Il faudra demander ça aux dirigeants.
En tout cas, c'est pas mesuré. On pense que ça marche. On voit des choses.
Le slogan de la ville, c'est vivre sa foi dans la paix, la joie et l'harmonie. Alors c'est un peu bisounounours, mais c'est magnifique. C'est ce qu'on veut. C'est vraiment ça. Je veux dire, c'est la paix entre les voisins, entre les gens c'est les êtres humains. Ils doivent vivre en paix, dans la joie et dans l'harmonie. C'est simple. Et quelle que soit leur foi.
Alors, est-ce que vous faites des émules? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent du monde entier, puisque pour l'instant, l'expérience est unique dans le monde entier, pour prendre exemple sur vous et s'inspirer de votre expérience?
On a eu la visite des Allemands.
En Allemagne, ils ont décidé, mais là, c'est seulement les trois religions du livre, ils ont créé au centre de Berlin le 3 en 1, donc c'est une maison avec trois axes, je crois, mais c'est un seul bâtiment. Nous, c'est pas un bâtiment, c'est chaque communauté a son bâtiment, c'est un peu différent. Maintenant, c'est vrai que les Japonais sont venus voir, on a eu une page dans un journal japonais sur l'esplanade. Là, il y a un chercheur britannique qui va visiter l'esplanade au mois de juillet, qui fait une thèse sur le vivre ensemble dans le monde et qui pense que Bussy est en avance sur beaucoup de villes. Et on a aussi, de temps en temps, des coups de fil de municipalités de la région parisienne qui veulent venir voir ce qui se passe chez nous.
Mmh. Pour l'instant, ça suscite une curiosité, en fait.
Une curiosité, oui. Ouais. Mais notre rêve, c'est ça, c'est d'avoir envie de dupliquer cette...
D'exporter le modèle.
On a une visite d'un représentant du pape, en fait.
Alors, on a eu... Mais là, c'est le responsable des relations judéo-chrétiennes qui est venu visiter... qui est venu visiter l'Esplanade, oui, il y a un mois.
Bon, en tout cas, vous avez officiellement invité le président de la République française, Emmanuel Macron, à venir parler dans l'Esplanade des religions pour parler de laïcité. Est-ce qu'il vous a répondu ?
Alors, il n'a pas encore répondu. On espère toujours une réponse. On ne comprend pas pourquoi on n'a pas eu de réponse, parce que on est convaincus tous ensemble que Bussy-Saint-Georges est l'endroit où la laïcité existe réellement, c'est-à-dire permettre à chacun de vivre sa foi dans la liberté totale et dans le respect de l'autre. Et c'est ça la laïcité.
Laïcité, ça veut dire c'est pas contre les religions.
Non, c'est ça.
C'est permettre aux religions de pouvoir se pratiquer.
Tout à fait.
Je pense qu'il ne viendra pas, parce qu'effectivement, c'est souvent politisé derrière. À partir du moment où on fait la promotion d'une municipalité LR, donc qui n'est pas de son parti.
Il est déjà venu, à Bussy-Saint-Georges.
Non, il n'est jamais venu.
Il n'est jamais venu ?
Non, il n'est jamais venu.
Après, ça dépend de la communication présidentielle qu'il y a derrière. Voilà, ça, donc, le jour où il aura intérêt à communiquer sur les religions, il choisira un lieu.
On l'a invité.
Effectivement, comme il y a une lettre qui a été envoyée pour l'inviter officiellement à venir s'exprimer sur l'esplanade, je voulais savoir s'il avait au moins accusé réception cette lettre. Et comme on sait qu'il est en train de travailler quand même sur un plan d'organisation de l'islam de France et peut-être de la loi 1905, donc il aura des choses à dire.
Il y a un tweet là d'Edouard.
Corrige-moi si je me trompe, Claude, la lettre, elle est co-signée par la mairie, je crois.
La mairie a co-signé la lettre. La lettre, elle vient de nous, de l'Esplanade, de l'association de l'Esplanade. J'ai signé cette lettre, qu'on a écrite tous ensemble, hein, bien sûr, mais parce qu'on avait entendu une rumeur disant que le président préparait un grand discours sur la laïcité.
Exactement.
Ouais. Et s'il y avait un discours
depuis
sur la laïcité,
dernière, y a cette
on
rumeur.
Pensait, nous, que Bussy était l'endroit idéal pour faire ce discours.
Alors,
la lettre a été co-signée par la mairie pour des questions de sécurité, pour expliquer qu'on pouvait accueillir facilement
le président.
Moi, j'avais une question sur... ça fait maintenant quelques années que vous vous côtoyez, que les communautés religieuses se côtoient. Est-ce qu'il y a vous arrivez à partager des expériences où il y a des choses qui vous vous inspirez mutuellement ? Est-ce que vous avez des cas concrets sur ce...
En fait, pour la blague, parce que vu que Claude il n'arrive pas à réunir l'argent, je lui dis écoute, je te donne les tuyaux, mon pote, parce qu'à un moment donné, tu vas rester ici, il faut que la synagogue soit construite. Voilà. Mais il dit j'arrive pas. Je lui dis écoute, à un moment
donné. C'est quoi les tuyaux pour construire une mosquée ?
Il faut appeler les gens carrément. C'est des porte à porte.
Je pense vous avez deux modèles que je connais de mosquées qui ont été construites par les municipalités et que les associations musulmanes remboursent la mairie par mensualité.
D'ailleurs, c'est hors de question. La ville est trop endettée. Elle a été sous tutelle pendant un certain temps. On peut pas. On peut pas. Effectivement, d'ailleurs, une ville riche pourrait avancer l'argent. Etc. C'est impossible.
Votre communauté, elle a aidé. Elle a déjà aidé la synagogue. Vous avez déjà.
C'est pour le. Moi, j'étais voir mon ophtalmo qui est juif marocain. En fait, et je lui dis, écoute, on parlait. Il m'a dit t'habites où ? Donc on discutait. Donc. Je lui dis à Bussy, donc je lui dis, est-ce que tu sais, il y a la mosquée. Il m'a dit, oui, j'ai vu ça. C'était sur Canal Plus, mais il y avait un passage sur. Il y avait un passage. Il m'a dit, tiens, mais il a fait un chèque pour la synagogue et un chèque pour la mosquée, en fait.
Excusez-moi, la synagogue, elle en est où ?
On a un préfabriqué pour l'instant sur un terrain prêté par la municipalité, mais on a acheté un terrain sur l'esplanade. On a pris le terrain qui est à 2 mètres de la mosquée. Ça, c'était un symbole vraiment de vivre avec nos cousins musulmans, d'être vraiment l'un à côté de l'autre. On a acheté ce terrain, on a instruit un permis.
La municipalité a fait un prix, j'imagine.
Alors oui, le prix du terrain,
c'est pas, la municipalité, en fait c'est Épamarne.
C'est l'établissement public d'aménagement.
Mais le prix c'était fait pour tout le monde en fait.
Voilà. Le même.
C'est un prix.
Le prix du marché ou bien le bailleur
hypothétique ? Non, c'est un prix très bas. Pour des, on n'a pas le droit de faire du commerce, on doit faire du culturel et du cultuel. Donc on a acheté le terrain, on a le permis de construire, notre projet il est magnifique.
C'est combien le mètre carré qui est proposé par la mairie, juste comme ça pour savoir ? Vous avez une idée?
C'est 75 000 euros hors taxe pour les 1900 mètres carrés.
C'est pas cher du tout. C'est en fonction du nombre de mètres carrés construits. C'est-à-dire, on peut avoir un terrain de 5000 mètres. Si on construit 200 mètres, c'est pas le même prix. Bon, mais donc, on a le terrain, on a coulé la dalle.
Bien. Bravo. Voilà. En tout cas, c'est une expérience, Yacine, qu'on va suivre, celle que de l'Esplanade des Religions. L'association a un site pour ceux qui nous écoutent, qui sont curieux de voir ce qui s'y passe.
Il est en création.
Ah, vous dites donc. Ouais. Alors là, ça sert à rien d'être tous ensemble pour être en création pour le site.
L'association a juste 14 mois d'existence.
D'accord.
Voilà. Moi, dans quelques mois, on aura un premier site.
Vous voulez qu'on vous aide à trouver un bon webmaster ou quelqu'un qui vous aide à faire le site?
On a quelques-uns.
On va voir sur Bussy. Pour laisser les enfants de Bussy faire leur truc à eux.
Olivier, normalement, il y a
des gens. Oui, en tout cas, j'invite moi les auditeurs à passer à l'Esplanade. Il y a un très beau parc. En plus, il va faire beau. N'hésitez pas à aller passer voir. C'est très beau. Il y a différentes.
S'ils organisent un barbecue, moi je viens.
Ah bah voilà.
Le 22 septembre.
Moi, je vous invite le 22 septembre à tous venir sur cet Esplanade.
Inch'Allah, pourquoi pas.
Voilà, Spikuni, merci d'avoir été tous avec nous. Merci de nous avoir suivis et passez un très bon week-end sur Beurre FM.
Retrouvez Spikuni tous les samedis de 10h à 11h et en podcast sur Beurre FM et l'appli Beurre FM.